C'est 8 du 3,
la radio underground.
Will change your life.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là ?
Et non, on va pas la refaire celle-là. Bonjour, bonjour. Il est midi sur Radio Campus Orléans et vous écoutez Écoute ta fac. je suis en studio avec Viviane. Il y a
bonjour.
Pas Lucas.
Bah non, a... Lucas est parti, mais j'essaye de le remplacer, ça va être difficile.
Ah non, pas du tout. Je suis aussi avec Lorraine.
Coucou. Salut Fatine.
Et tu es ici pour l'agenda du bouillon.
C'est ça.
Pour le programme d'aujourd'hui, il y aura l'agenda, bien sûr. Il y aura aussi une interview avec la compagnie Acoustea qui vient nous présenter leur création ainsi que leur nouvelle installation intitulée Fauve. Et puis, comme toujours, la belle programmation musicale de Radio Campus Orléans. Et tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux, celui-là ? À toi, Lorraine.
Eh bien, plein de belles choses au programme cette semaine au Bouillon. Des choses hyper différentes. On va commencer ce soir à 19h. Par la Constance de l'éphémère, c'est la clôture, soirée de clôture de la résidence artistique Art et Botanique. Donc l'Université d'Orléans en fait, accueille depuis le mois de septembre une résidence artistique et la compagnie donc, Mangano Massip pour cette résidence autour de cette thématique Art et Botanique et travaille en fait, avec des enseignants, avec des étudiants autour de ce thème. Et donc là, c'est leur soirée en fait, performance de clôture. Et donc, à 19h, il va y avoir à la fois en fait, du théâtre gestuel dehors et dans le bouillon, donc par la compagnie Mangano Massip, qui a créé en fait, un spectacle avec les étudiants. Donc, c'est les étudiants qui ont imaginé des tableaux, et eux vont en fait, faire et mettre en scène ces tableaux sur la thématique art et botanique. Et dans le bouillon, vous pourrez retrouver jusqu'à la fin du mois de mai donc, une exposition sur cette thématique art et botanique qui là, a été entièrement conçue par plein d'étudiants de l'Université d'Orléans. Donc voilà, en lien avec les artistes. Donc une belle soirée qui est gratuite pour tout le monde et c'est donc à 19h.
Demain ou aujourd'hui ?
Aujourd'hui.
Ouais.
Le 16 avril, donc devant le bouillon au départ, voilà, il y a une partie qui se passe dehors, on les voyait répéter hier sur le parvis.
Oui, c'est pour ça qu'il y avait un truc marrant.
Oui,
c'est ça.
Ouais. Un truc marrant, on ne va pas tout dévoiler à nos auditeurs. C'est bien.
Tu as dû voir des mouvements, tu as dû voir des formes, etc.
Très cool.
C'est pour ce soir. On fait un peu de teasing pour ce soir.
Alors, ça s'appelle la constance de l'éphémère.
C'est ça.
C'est tout un programme, en effet, avec la botanique, c'est ça.
Voilà, donc ça, c'est pour ce soir. Pour demain, alors demain, là, on change de registre et on passe à la musique avec un très beau projet qui est à la fois porté par l'Université d'Orléans à travers le Bouillon et à travers Polytech Orléans, mais aussi par l'Astrolabe. Et c'est un projet qui s'appelle donc Idiophone Orchestra. En fait, l'Astrolabe a développé un projet avec le Collège Montesquieu et permet aux étudiants, aux collégiens, de créer des idiophones. Donc les idiophones, c'est une sorte d'instrument de musique qui n'ont pas besoin de caisse de résonance. Et ces collégiens l'ont créé avec des étudiants de Polytech. Et avec l'aide d'Alexandre Coulon, qui est percussionniste, ils ont tester en fait ces instruments qui fonctionnent très bien et là ils viennent pareil grande soirée de restitution ils viennent nous montrer en fait leur orchestre d'idiophone demain à 18h30 et c'est pareil l'entrée est gratuite.
Voilà comment allier musique et science, c'est passionnant en effet. C'est à voir ce soir à 18h30 au Bouillon.
Demain soir
à 18h30 au Bouillon.
Chaque soir sa restitution différente.
Voilà. Ce soir c'est théâtre, demain
C'est musique et jeudi c'est encore théâtre.
Wow.
Et cette fois, c'est donc les étudiants de l'Institut de Français qui vont donc interpréter une pièce de théâtre autour de la thématique des Jeux Olympiques. Hein, c'est dans l'air du temps.
Ouais.
Et c'est une pièce qui s'appelle « Je ne cours pas, je vole » d'Élodie Ménan. Et donc voilà, ils viennent justement nous montrer qu'à la fois, ils ont bien progressé en français et qu'en même temps, ils peuvent aussi monter sur les planches et nous proposer de jolies choses avec cette pièce de théâtre qui, elle, aura lieu à 20h30 et c'est également gratuit. Voilà.
Très
bien. Une belle semaine.
Oui. Belle semaine de restitution différente, en effet.
C'est ça.
Des étudiants qui sont créatifs.
C'est vrai.
Il faut justement encourager la créativité étudiante et puis le fait de se surpasser et de monter sur les planches.
C'est ça le grand bain.
Exactement. Et bientôt Radio Campus.
Eh oui.
Ça approche.
Ce sera à partir du 28 mai jusqu'au 31 mai.
Voilà, on aura une semaine dédiée à Radio Campus dans le cadre du Grand Bain.
Voilà, c'est Ondulation, le festival qui est autour de la création numérique et de la radio, des médias.
Très bien. Eh bien, on passe à la musique. On va s'écouter... Merci beaucoup.
Merci, Lorraine. À bientôt.
À bientôt.
On va s'écouter Variation 5 de Ziad Rabbani.
Rabbani. Ouais.
Écoute ta fac, tous les jours, de midi à 13h, sur Radio Campus.
C'était très doux ce morceau. Ça a commencé...
Ziad Rabbani.
Ouais, c'est beau.
C'est très beau. C'est issu d'une compilation qui sort. Je vais aller chercher un petit peu de documentation.
Oui, c'est beau.
Alors, c'est de la réédition. En fait, oui, c'est une compilation de trois albums. Voilà. Qui sort là chez We Want Sounds. Voilà, l'album Amrak, Sina et Abtalwa Aramaya. C'est un musicien libanais, en fait, Ziad Arbani.
Très bien.
Voilà. Plutôt jazz, funk, ouais. En effet. Là, on écoutait un morceau, en effet, très atmosphérique. Moi, ce que je connais, Ziad Arbani, était beaucoup plus rythmé et presque très dansant, funky, des années 70, en effet.
Ah ouais. Celui-là, c'est complètement contraire, je trouve.
C'est sorti beaucoup plus tard, c'est sorti en 1987.
Oui. Ok. Et ouais, tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Je vous passe une interview enregistrée il y a un peu de temps avec Alexandre Lévy, le compositeur, musicien. Enfin, il fait tout à Acoustéa. Je vous laisse découvrir ça.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Lévy, musicien et compositeur d'Acoustéacie. Alors, tu fais plein de trucs.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut dire que ton principal truc, c'est la musique, la composition de musique?
Ah bah oui. Bah moi, je suis quand même musicien au départ. Ouais. Moi, je suis pianiste au départ, un pianiste classique. Voilà, j'ai fait de la musique depuis tout petit et tout ça. Et puis, c'est ça qui me fait vibrer, quoi.
Ouais,
c'est
vraiment
le son, la musique et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est un peu tourné. Alors, mal tourné, je ne sais pas, mais voilà.
Mais ça a tourné.
Ça a tourné,
c'est
voilà.
La vie. Ça tourne des fois.
Et c'est ça, voilà, exactement.
Bah, du coup, bonjour.
Bonjour, salut, salut.
Du coup, Acoustéacie, c'est une compagnie qui vient à Orléans avec une nouvelle installation intitulée Fauve.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous... pardon, est-ce que tu peux...
C'est impressionnant, j'ai... Hein, vous voyez, c'est ça. Hein.
Est-ce que tu peux nous présenter d'abord la compagnie Acoustéacie, c'est quoi, de quoi il s'agit?
Ouais, alors moi je dis Acoustéa parce que bon, on peut dire Acoustéa Compagnie, enfin tu fais comme tu veux.
Ouais.
En fait, Acoustéa, c'est l'idée, en fait, ça devait pas s'appeler Acoustéa au départ, ça devait s'appeler l'Acoustéâtre. Bon, on trouvait que c'était un peu longuet, c'était un peu compliqué, tout
ça.
Donc on s'est dit Acoustéâtre, on va dire Acoustéa. Et en fait, c'est le théâtre de l'oreille. En fait, je me disais, moi, ce que j'aimerais, ça serait mettre en scène la musique, l'écoute, enfin, quelque chose qui soit vraiment de trouver des formes qui peuvent faire qu'on écoute différemment la musique et qu'on se mette dans une situation particulière pour écouter de la musique. C'est ça, c'est l'acoustéâtre, c'est l'acoustéa. Voilà, c'est ça, c'est tout simple, en fait.
Et le si, c'est quoi?
Si, c'est compagnie.
Ah oui,
compagnie, voilà.
Okay,
donc tu peux le dire ou tu peux ne pas le dire. Moi je le dis pas, mais après tu fais comme tu veux.
Je vais dire Acoustéa.
Voilà, Acoustéa.
C'est plus cool.
Exactement.
Du coup, c'est quoi la vision artistique ou la philosophie un peu qui guide la création, qui a guidé la création de cette compagnie?
Ouais. Alors en fait, ça fait pas mal de temps que j'avais envie de faire. Autre chose, parce qu'en fait, un musicien, grosso modo, il fait des concerts dans des salles, ce que j'ai beaucoup fait. J'ai fait aussi du spectacle musical, j'ai fait de l'opéra, j'ai fait tout un tas de trucs. Mais j'avais envie de créer des formes un peu différentes. Et en fait, moi, j'adore les transmédias, j'adore les arts plastiques, j'adore les installations, j'adore les musiques électroniques, etc., etc. Donc je me suis dit, tiens, mais j'ai envie de fusionner tout ça, de créer un langage, de créer quelque chose qui va faire des formes un peu particulières et qui mette le public dans une situation inhabituelle pour écouter de la musique.
Oui.
Et en fait, ça veut dire que donc je me suis très vite associé avec une plasticienne qui s'appelle Sophie Lecomte, avec laquelle j'ai tout de suite fait plein d'installations. Et ensuite, j'ai travaillé avec des vidéastes, avec des danseurs, avec enfin, un certain nombre d'artistes pour créer des formes. Et à chaque fois, bah, on crée des... Alors, on fait des sculptures sonores, on fait des installations. Là, j'ai fait des installations depuis très longtemps qui s'appellent l'arbre à frôler, où je suspends des milliers de lianes avec des capteurs. Donc, on traverse les lianes et ça déclenche de la musique. Enfin, j'ai fait plein de choses comme ça.
Oui.
Et à chaque fois, l'idée, c'est de créer une forme, un objet qui fait qu'on va être dans une situation un peu inhabituelle pour écouter de la musique. Voilà, c'est ça le délire de Acoustea.
Et comment vous faites pour créer une forme ? Genre pour moi, ça c'est une forme par la musique.
Ouais.
Genre une forme qu'on peut voir,
ouais,
et entendre en même temps.
Exactement.
Pour moi, ça c'est incroyable. Comment vous faites ?
Alors en fait, l'idée c'est d'avoir une réflexion sur ce qu'on a à dire. Voilà.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a à dire et pourquoi ça a du sens que ça prenne une forme et que cette forme-là soit à la fois une forme plastique, une sculpture, une installation,
mm-hmm,
et en même temps de la musique. En fait, il faut d'abord s'interroger sur pourquoi ça a du sens. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien aborder tel sujet, j'aimerais bien en parler comme ça. Et petit à petit, je me dis, bon, bah, est-ce que ça a du sens qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit toucher, qu'est-ce qu'on doit entendre, etc. Et puis petit à petit, on affine les choses. Et puis moi, je travaille avec toujours un peu les mêmes personnes depuis pas mal de temps maintenant. Et on échange. Et puis au bout d'un moment, on arrive à des formes. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut quand même que je donne quelques exemples.
Ouais.
Alors là, par exemple, on a travaillé sur un projet sur la vibration sonore des végétaux qui s'appelle Vibration Forest, qui est une installation. Et en fait, j'ai lu pas mal d'articles scientifiques qui expliquent que certains végétaux utilisent des vibrations sonores pour communiquer entre eux.
Ah oui.
Alors, est-ce que tu imagines pour un musicien,
ouais,
de savoir que certains arbres sont capables de vibrer pour transmettre des informations, de vibrer de manière sonore, hein, tu vois,
ouais.
Bah, en fait, moi, tout de suite, je me dis, mais c'est super intéressant.
Il faut les entendre.
Mais sauf que les arbres n'ont pas d'oreilles et n'ont pas de cordes vocales.
C'est ça.
Voilà. Donc, en fait, comment ils font ? En fait, ils vibrent. Donc, je me suis dit, ah, bah, ce qui serait génial, ça serait qu'on puisse toucher quelque chose qui vibre et qui nous transmette aussi la vibration sonore des végétaux.
Oui.
Donc, en fait, j'ai fait tout un tas de recherches, j'ai travaillé avec un studio à Lyon et on a créé des sortes de sculptures qui reprennent les vibrations sonores des végétaux.
Okay.
Alors ces sculptures, tu peux les toucher et en les touchant, plus tu les touches, plus elles vibrent et c'est inspiré directement de la vibration sonore des végétaux.
Wow.
Et donc c'est ça l'idée. Et après, bien sûr, bah, à partir de là, j'ai composé de la musique et pendant que le public est dans l'installation et touche les installations vibrantes, eh bien, on joue des pièces qui sont des pièces pour percussion électronique, percussion et électronique qui reprend toute la thématique des vibrations sonores des végétaux.
C'est incroyable tout ça.
Je suis
très impressionnée.
Oh, bah, il ne faut pas parce que c'est justement l'idée, c'est que ce soit hyper simple d'accès.
Oui.
Et que n'importe qui, sans mode d'emploi, sans lire un programme très long, en fait, peut accéder facilement à une œuvre qui par ailleurs, et voilà, qui peut avoir ses complexités, etc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est me dire que voilà, ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Quoi.
Oui. Et d'où vient l'inspiration ? Genre, le musicien qui découvre les arbres, qui communiquent en vibrations sonores et tout. C'est de l'inspiration, ça.
Ouais.
Mais d'où vient l'inspiration ?
Bah, en fait, tu sais, l'inspiration, c'est quelque chose qui est... comment dirais-je ? Je dirais que c'est quelque chose qui se travaille, en tous les cas. C'est ce qu'on cherche, en fait, ce qu'on cherche chez les artistes, c'est un regard, c'est une manière d'écouter, c'est une manière de faire entendre, c'est une manière de transmettre tout ça.
Oui.
Donc en fait, moi, tu vois, par exemple, tu vas avoir deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tu vas te dire, ah, mais finalement, si, ça me donne une idée.
Oui.
Et puis tu te dis, mais comment je vais pouvoir transmettre cette idée par la musique, par l'image, je ne sais pas. Eh bien, c'est ça l'inspiration, en fait. Et en fait, c'est simplement très souvent à assembler plusieurs choses et tout d'un coup avoir quelque chose qui... Voilà, qui peut être très poétique, qui peut être très, très doux, qui peut être ceci, cela, enfin quelque chose qui te raconte quelque chose. et tu te dis bah, je vais le transmettre en faisant de la musique. Alors tu entends de la musique, tu vois des images, etc. Puis voilà, en fait l'inspiration c'est pas grand chose en fait.
C'est vrai ?
Bah non, parce qu'en fait, moi je pense que tout le monde est inspiré.
Oui.
Ça, mais par contre, c'est le regard que tu vas poser dessus. Oui. Et surtout, c'est quelle forme, qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre.
Qu'est-ce qu'on va créer avec cette inspiration.
C'est ça, c'est surtout c'est ça vrai. En fait. Mm. C'est là où par contre, oui, là il faut un petit peu de temps. Et puis après, moi je vais voir beaucoup mes collègues, compositrices, compositeurs, les artistes que j'aime bien, les artistes que je connais pas, j'aime bien aller voir des trucs que j'ai jamais vus, je sais pas ce que c'est, et puis on découvre, et puis et de tous horizons quoi. Vraiment, de toutes sortes de musiques, que ce soit les musiques classiques, les musiques contemporaines, les musiques électroniques, je ne sais pas, enfin, peu importe, quoi.
Du coup, c'est des émotions, des sentiments qu'on étudie, quoi. Qu'on fait travailler, je ne sais pas comment le dire.
En fait, moi, je n'étudie pas tout, hein, parce que sinon, c'est un peu la galère, hein, tu passes ton temps à travailler.
Ouais.
Non, en fait, c'est que moi, je sais que là, en ce moment, on travaille sur un nouveau projet, en fait, qui s'appelle Fauve et qui est moi je me pose beaucoup de questions sur notre rapport au monde, voilà, et sur notre rapport au vivant surtout. Bon, on peut dire que quand même c'est quelque chose qui traverse beaucoup, beaucoup de personnes en parlent. En fait, on réinvestit notre rapport au vivant depuis pas mal de temps, et donc ça c'est une question qui m'intéresse parce que c'est une question qui me touche et puis qui concerne aussi notre époque, tu vois. Et du coup je me dis tiens, là, j'ai envie de parler de notre rapport à l'animal, à l'animalité, à l'animal sauvage, tu vois. Donc, j'ai lu plein de bouquins là-dessus. J'ai plein de livres d'anthropologie qui parlent de sociétés qui ont toujours un rapport à l'animal sauvage. Et en fait, je me suis un petit peu tombé par hasard sur un récit de Nastassia Martin, qui s'appelle Croire aux fauves, qui a eu un grand succès éditorial il y a quelques années, et qui raconte justement sa rencontre avec l'animal sauvage. Donc c'est une rencontre qui est terrible, parce qu'elle s'est fait attaquer par un ours, et une partie de son visage a été abîmée, etc. Donc elle parle de quelque chose d'assez dramatique, et en même temps, cette rencontre terrible avec un ours du Kamchatka, va lui amener, enfin il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans sa vie, donc elle ne sait pas trop ce que c'est, mais elle se rend compte que l'animal sauvage a traversé sa vie depuis son enfance en définitive. Donc en fait, est-ce que nous-mêmes nous ne serions pas aussi conditionnés par notre rapport à l'animal, par l'animal sauvage, est-ce que nous, à l'intérieur de nous, il y a toujours un animal ou des animaux sauvages qui nous habitent et qui nous traversent. Moi, je trouve ça super intéressant comme question.
Oui, c'est très intéressant.
Tu vois, je me dis, tiens, est-ce que justement, on est en train de se questionner à fond sur notre rapport à l'animal, de manière générale, et surtout, c'est que nous, en Occident, on est un peu couper tout ce monde-là, et je trouve ça intéressant d'interroger et en tout cas de questionner d'autres sociétés qui ont toujours un lien avec l'animal sauvage et qui vivent en proximité avec eux et qui n'ont pas perdu un lien culturel avec. Et donc c'est ce que font les anthropologues justement, et surtout ce qui m'intéressait c'était de travailler sur le Grand Nord. Donc là par exemple, tu me disais, c'est quoi ton inspiration? Moi, ça, c'est tout ça. Je bouquine tout le temps. Je vais avoir tout un tas de trucs tout le temps. Et puis, je me suis dit, ce qui serait vraiment super, ça serait que de passer par la voix. En fait, je crois, et il y a beaucoup d'artistes et de traditions aussi vocales qui utilisent la voix humaine presque comme une voix animale. Et en fait, je me suis dit, ce qui serait super, ce serait que ce travail-là entre être humain et être non humain, enfin, on va dire, qu'on puisse raconter une histoire avec des voix et travailler sur la voix humaine et voix non humaine, voix humaine et voix animale. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va créer une sorte d'opéra, une performance vocale, et on va essayer de raconter cette histoire pour que l'animal rentre dans la voix humaine. Voilà, c'est un peu ça le délire.
Du coup, est-ce qu'on trouve la réponse de la question de l'humain et non humain? Est-ce qu'on a un animal en nous? Est-ce qu'on trouve la réponse dans cette installation, ou c'est juste ça, ça permet de poser cette question.
Ben oui, ça permet tout à fait de poser cette question. Et puis,
mais est-ce qu'on trouve la réponse après ?
Ah ben là, justement, moi je ne suis pas dans une... C'est une œuvre d'art.
Ouais.
C'est là où en fait l'œuvre d'art est là pour... Enfin, en tous les cas, celle que je conçois, est là pour poser des sujets, pour nous mettre en contact avec des sujets, mais de manière sensible, de manière poétique.
Oui.
Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas anthropologue. Et je pense que je m'appuie sur ces sujets-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'être plutôt dans une idée de poétique, de transporter le public dans un univers et que chacun puisse, être en résonance avec, avec la musique.
Chacun sa propre interprétation.
Exactement, exactement. Mais là, c'est la première fois qu'on s'appuie sur un texte.
Okay.
Et donc on a adapté le texte de Nassa Saint-Martin. Donc c'est Stéphane Desbassé, qui est notre metteur en scène, qui a adapté ce livre. Ensuite, toujours avec Sophie Lecomte, on a imaginé... Alors ça, tu disais, mais comment tu fais? C'est quoi ton truc? Alors, donc moi, j'ai proposé à Sophie, je lui ai dit, bah, écoute, tu vois, il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose qui vraiment donne cette idée d'une personne qui s'est fait attaquer le visage et puis qui se pose des questions sur son identité. Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce qu'elle est non humaine? Est-ce qu'elle a une partie d'ours en elle? Est-ce qu'elle a perdu une partie de soi? Enfin, c'est quand même... fou cette histoire.
Oui.
Et bien en fait, elle a une idée qui était hyper simple, c'était de faire une grande tête, un peu fractionnée, et qui soit moitié ours, moitié femme.
Okay.
Et en fait, et du coup, je me suis dit, bah oui, tu vois une grande tête, donc qui fait 2,40 m de haut, 3 m de large, etc. C'est un grand truc, donc tu peux rentrer à l'intérieur du crâne.
Oui.
Et en fait, la moitié de la tête, c'est une femme, et l'autre moitié, c'est un ours.
C'est un ours, oui.
Eh bien, en fait, tu rentres dedans et tu touches cette tête et tu entends tous les rêves que fait le personnage, de ses rêves d'animaux, de ses rêves de paysages, etc. etc. Enfin, tu vois le truc. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans des évocations poétiques et puis de faire rêver un peu tout le monde et puis que ce soit simple quoi, d'accès. Oui. Quoi.
Et comment on s'approche de l'animal, enfin au niveau sonore.
Oui.
Comment tu fais pour imaginer, je sais pas, les rêves de l'animal ou le son de l'animal,
alors,
ce qui se passe dans
donc,
sa tête.
Exactement. Donc moi, ce que j'ai fait, si tu veux, en termes sonores, c'est que je me suis appuyé sur des banques de sons d'animaux sauvages qui ont été enregistrés dans des conditions réelles, dans des conditions naturelles, donc pas en captivité. Et donc, il y a plusieurs animaux qui sont en référence dans le livre de Nassa Saint-Martin. Donc, bien sûr, il y a l'ours, il y a le renard, alors il y a l'oiseau multicolore. Alors, l'oiseau multicolore, c'est un oiseau un peu qui peut fusionner avec plusieurs oiseaux différents.
Mmh.
Et puis, il y a soit le renne, soit le chevreuil. Donc, ça fait 4 ou 5 animaux, pas tant que ça, en définitive. Et donc, je me suis documenté. Donc j'ai fait une recherche. Donc je me suis j'ai demandé à l'abbaye de Noirlac qui a une banque de sons de son bocage qui donc elle a des banques de sons incroyables d'animaux qu'elle a captés dans le bocage de Noirlac. Donc j'ai utilisé là par exemple pour le chevreuil.
Mm-hmm.
J'ai utilisé des enregistrements de renards parce que ça se passe à la fois en Sibérie et à la fois en France.
Okay.
Donc, par ailleurs, j'ai pris des enregistrements de renards arctiques qui ont été justement enregistrés en Sibérie.
Mm-hmm.
Et en fait, en écoutant ces enregistrements, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait un peu une analyse spectrale, j'ai essayé de voir comment ça sonnait, etc. Donc j'ai rajouté quelques sons électroniques à l'intérieur qui faisaient qu'on était un peu entre une voix animale et puis une voix un peu humaine, tu vois, voilà. Et en fait, j'ai rajouté les instruments parce qu'en fait, il y a des sons qui sont très proches de la voix humaine et qui sont très proches aussi d'instruments de musique. Donc en fait, l'idée, c'était d'être sur une frontière sonore.
Oui.
Voilà. Parce que nous, on croit qu'on est tout beau, tout lissé, tout machin. Mais en fait,
non.
La voix humaine, c'est quelque chose qui peut être vite animal, qui peut être vite bestial.
C'est
tu
ça,
vois.
Exactement.
Et même dans nos pratiques vocales,
oui.
Donc, il y a les chanteurs lyriques qui se mettent presque à crier.
Mm-hmm.
Il y a, tu vois, dans les chanteurs de métal,
oui.
Ils utilisent leur voix de manière délirante. Enfin, moi, je trouve ça fou, quoi.
Ouais.
Je me dis, tiens, bah, pourquoi pas investir ça? Alors aussi, une chose, c'est que je travaille avec des interprètes. Donc, j'ai demandé à 3 interprètes de venir me rejoindre dans ce délire. Donc il y a Elisa Brovski qui est une chanteuse lyrique mais qui vient aussi des musiques improvisées, donc qui improvise beaucoup avec sa voix, qui trouve plein de sons ultra bizarres, enfin voilà, elle est très dans l'invention sonore. Il y a aussi Marie-Pascale Dubé qui a toute une technique vocale, tu vois, des voix de gorge, je ne sais pas si tu vois ce que c'est les voix qui sont utilisées par les peuples arctiques.
Oui, ah oui, oui. Tu vois, je vois.
Donc qui imite des animaux,
oui,
justement,
c'est ça.
Tu vois.
Mm-hmm.
Donc elle est dans une technique vocale complètement bizarroïde, justement, entre voix humaine et voix animale.
Ouais.
Et il y a Jean-Christophe Brizard qui a une voix de basse profonde, donc je crois que c'est la voix la plus grave que j'ai jamais entendue de ma vie. Et en fait, qui est comme ça, qui fait vraiment penser à toutes ces voix, les voix mongoles, etc., des voix des steppes et tout ça. Donc, tu vois, déjà, l'idée, c'était de travailler avec des chanteurs qui ont déjà des voix qui sont déjà dans des frontières. Donc, voilà. En fait, donc, d'un côté, on a l'installation avec cette tête un peu fantasque et ces chanteurs. Donc, on joue un spectacle qui est une performance musicale et il y a l'installation qui reste ensuite. Et quand tu touches l'installation, eh bien, tu entends les rêves de l'héroïne qui rêve évidemment d'animaux.
Bah, du coup, il y a différents éléments interactifs qui permettent de s'immerser encore plus dans cette installation. Du coup, j'avais une question. C'est quoi la différence entre être un humain et être un animal ? C'est quoi cette frontière ? Qu'est-ce qui peut changer un animal à un humain ou un humain à un animal ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence ? J'espère que je suis claire.
Alors là, moi, je ne suis pas anthropologue, mais en tous les cas, ce qui m'a vraiment fasciné justement dans cette question-là, c'est que c'est une question qui est purement culturelle. Ce qui m'a beaucoup fasciné justement quand on se documente sur les peuples qui ont toujours des traditions animistes, c'est que souvent ils considèrent qu'on est tous des êtres humains,
oui.
Mais que sauf on a tous pris des chemins différents.
Exactement.
Et en fait, à la base de ton raisonnement, de ton rapport au monde, tu te dis finalement on est tous des êtres humains, mais on a pris des chemins différents. Forcément, tu ne poses plus la question. Enfin, tu ne poses plus du tout la question de la même manière, pas en termes de hiérarchie déjà.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc ça, déjà, ça change énormément. Mm-hmm. Ensuite, il y a aussi le rapport au visible et à l'invisible. Nous, on a un rapport à l'invisible qui est forcément lié à des entités qui sont hors de notre vision et qui sont les entités qui sont ailleurs. Alors que souvent dans les sociétés animistes, bien sûr, il y a un rapport à l'invisible, mais avec des entités qui font partie de notre univers. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'invisible et le visible sont font partie du même monde, mais même monde, il est proche de nous. C'est pas une entité extérieure au monde a tout décidé de tout, etc., etc. Voilà. Et donc c'est un rapport en fait qui est beaucoup plus proche, qui est beaucoup plus en proximité et qui nous apprend beaucoup sur notre propre nature, quoi.
Oui.
Voilà. Et je trouve ça fascinant. Voilà.
Oui, c'est très fascinant.
Ouais.
Là, en parlant, ça me fait penser à plein de questions.
Oui, voilà.
Du coup, la qualité sonore. Ouais. Comment tu t'assures la qualité sonore au niveau des lieux et l'exécution des œuvres ?
Alors, en fait, en général, nous venons avec les installations interactives, que ce soit Fauve, que ce soit Vibration Forest, que ce soit toutes les œuvres qu'on va présenter lors de nos journées portes ouvertes, donc le 13 avril. Donc, en fait, à chaque fois, on vient avec des installations qui sont... on vient avec tout notre système son.
Voilà. Okay.
Et parce qu'on essaie de le contrôler. Après, nos œuvres s'appellent des installations sonores, des installations interactives. Donc à chaque fois, le principe d'installation, c'est que tu modifies l'endroit dans lequel tu viens t'installer. Donc on va jouer, je vais donner des exemples. On va jouer au château de Beaugency en juillet. Donc, qui est dans la cour du château, qui est un château à la fois renaissance et médiévale. Donc, on va placer nos haut-parleurs, on va placer nos installations dans la cour en fonction de l'acoustique. La fois suivante, on va jouer à Taïwan, à Taipei pour la nuit blanche, dans un grand parc et au milieu d'arbres. Donc, on va forcément placer nos haut-parleurs. À chaque fois, l'idée, c'est de s'inspirer du lieu dans lequel on est. De se dire, voilà, c'est quoi l'acoustique, les gens circulent comment,
faut s'adapter.
L'entrée, la sortie, etc. Mais justement, l'idée, c'est ça une installation.
Oui, oui, oui. Voilà.
Donc à chaque fois, on vient avec un système et quelquefois on l'adapte, on change, quelquefois on rajoute des haut-parleurs, des fois on en retire, enfin voilà, c'est ouvert quoi.
Tu as parlé des collaborations avec des interprètes, d'autres artistes. Comment vous faites pour fusionner ta touche et leur touche et faire un travail collectif, quoi.
Oui, alors déjà, la première chose, c'est que je propose un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé.
Okay.
La plupart, tu vois, que ce soit Vibration Forest, que ce soit Fauve, je fais vraiment un dossier assez complet. Que c'est soit un dossier scientifique, soit bien sûr là c'est les sciences humaines, donc ça va être, donc j'ai travaillé sur plusieurs écrits anthropologiques, j'ai aussi travaillé avec une ethnomusicologue qui m'a sorti une documentation sur les traditions musicales des peuples arctiques. Donc voilà, l'idée, c'est au départ déjà d'amener une thématique, d'amener des idées de forme, d'amener comment dirais-je, un dossier sur lequel on peut réfléchir ensemble et leur dire, voilà, j'aimerais ma plasticienne la personne qui fait le coding de toutes mes installations, en fait, d'expliquer c'est quoi l'origine, c'est quoi la genèse, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Parce qu'en fait, c'est pas une création collective, c'est une compagnie. C'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
Et donc, en fait, sa première chose, c'est de documenter, d'expliquer ce qu'on va faire, etc., etc. Et ensuite, petit à petit, les écritures se tissent, tu vois. Et en fait, j'ai amené de la musique sur laquelle j'ai travaillé. Ensuite, on fait des résidences. Là, par exemple, on fait des résidences avec la personne qui a adapté le texte. Pendant qu'il adaptait le texte, moi, j'écris la musique. Je lui fais écouter au fur et à mesure. Mmh. Ah, il me fait modifier des choses. Moi, je lui fais modifier des choses. Pareil pour l'installation. Donc, on passe du temps ensemble, quoi.
Oui.
Et en fait, bah, le temps, c'est bien.
Hein. Oui.
On a le temps de discuter, on a le temps de faire des échanges. Mmh. Et puis, d'essayer de trouver une cohérence, tu vois. Et là, pour le coup, eh bien oui, il faut, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de travail en commun, et puis surtout, c'est que maintenant, ça fait pas mal de temps que je fais ça, donc je sais ce que j'ai déjà fait, je sais ce que j'ai plus envie de faire, j'ai envie d'évoluer aussi, je sais ce qui marche, je tente des choses, voilà, je recommence pas de tout à zéro, mais j'ai pas de méthode, si tu veux.
Oui, faut s'adapter à chaque fois.
Il y a
un template d'idées, de création, mais il faut s'adapter.
Exactement. Oui. Après, on est sur une logique quand même d'une production professionnelle avec des budgets, avec des résidences, avec etc. Donc, en fait, il faut, il y a un moment de recherche et de documentation, je dirais de gestation un petit peu.
Mmh.
Et puis, à un moment, il y a quand même aussi un moment où il faut monter la production. Et donc là, on a un temps qui est quand même un temps compté. Mais en même temps, cette contrainte de temps compté et de production, bah, ça nous oblige. Ça nous oblige à produire.
Oui,
sinon, tu peux te dire, on va...
Ouais, on va faire ça.
On va faire ça peut-être un jour.
Ouais. Et du coup, ça a pris combien de temps, Fauve, pour...
Fauve, moi, ça fait... La première idée de vouloir faire un travail vocal sur le rapport homme-animal, j'ai eu il y a une dizaine d'années.
Dix ans. Wow.
Ça fait une dizaine d'années que j'y pense. Après, j'ai fait tout un tas de trucs, j'ai lu tout un tas de choses, etc. Et en fait, je sais que je vais adapter ce livre depuis 3-4 ans. Voilà.
Okay.
Et après, il y a eu je te passe tous les détails. Mm-hmm. On va dire que là, on a vraiment mis 2 ans à écrire, écrire la musique, à créer l'installation. Et là, on est en train de... Là, on a construit l'installation. Il y a mon programmeur, mon codeur qui vient coder l'installation la semaine prochaine.
Mm-hmm.
Les chanteurs ont reçu la musique que je répète avec eux au mois de mai. Enfin, voilà. Donc, après, tu vois, tout s'accélère.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, donc, oui. Voilà, donc ça se...
Et est-ce qu'il y avait des défis Bien sûr, je pense.
Plein de défis. Ouais. Bah, en fait, moi, c'est la première fois que je fais une installation interactive sonore qui raconte une histoire. Mm-hmm. Donc, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit intéressant, il faut que les gens aient envie. Mm-hmm. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit un truc pédagogique avec des boutons ouais. et puis tu as une phrase. Enfin, il faut que ce soit poétique. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier défi. Deuxième défi, c'était vraiment de mélanger des voix qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et que ça reste cohérent. Je crois que c'est cohérent, mais bon, voilà. Et puis voilà. Et puis de proposer ça, parce que l'idée, c'est qu'on puisse jouer. Là, tu vois, on va jouer dans la cour d'un château. Après, on va jouer dans un parc. Et après, on va jouer dans une abbaye qui est une abbaye au bord de la mer. Après, on va jouer en pleine forêt. Enfin, l'idée, c'est de trouver une forme qu'on puisse jouer un peu partout. Moi, ce qui me ferait rêver, ce serait de la jouer en pleine nuit, en pleine forêt, en milieu de... Enfin, tu vois,
wow.
ça serait trop bien. Avec la tête d'ours et tout ça, tu te dis, waouh.
Ça va être vraiment réel, un truc...
ouais, je sais pas, ouais, voilà.
C'est très immersive.
Ouais, voilà, oui,
dans
voilà.
Dans la forêt, avec des ours.
Ouais, voilà. Alors, on va essayer de pas trop appeler d'ours. Pendant la perf, ça sera mieux.
Et bah, du coup, dis-nous, quand et où cette œuvre sera ouverte au public et comment peut-on venir la découvrir ?
Alors, en fait, donc nous avons nos ateliers qui sont à Orléans, au 55 rue de Patay. C'est à deux pas de la gare Orléans. On fait une journée porte ouverte le 13 avril de 14h à 18h. Et là, déjà, c'est le moment de découvrir l'installation qui n'est pas tout à fait finie, mais qui sera fonctionnelle. Mmh. Et Vibration Forest aussi. Il y a d'autres choses qu'on va montrer ce jour-là. Donc, c'est l'occasion de nous voir, qu'on papote, etc., de rencontrer les artistes et les techniciens qui travaillent avec moi. Ensuite, Fauve, on fait une avant-première au Passeur d'Histoire le 6 et 7 juillet de cette année. Ensuite, le 14 juillet, nous serons au château de Beaugency. 14 juillet, bah, c'est une drôle de date, mais c'est comme ça. Et ensuite, Fauve partira ensuite à Taïwan. C'est un peu loin pour nos auditeurs, mais vous penserez à nous.
Oui,
venez.
Bien sûr. Voilà.
Et puis après, on sera donc cet hiver ensuite en Bretagne. Enfin voilà, on a toute une tournée prévue. Et Vibration Forest sera... partir aussi en tournée à partir de juin jusqu'au mois de décembre. Mm-hmm. Et notre première date, ça sera à Metz. Donc, c'est un petit peu loin aussi.
Oui.
Mais voilà. En tous les cas, voilà, journée porte ouverte. C'est très chouette. Et puis voilà, puis ça permet de faire connaissance et puis de montrer un petit peu ce que c'est que ce drôle de truc.
Il faut venir, ça donne vraiment envie.
Bah ouais, j'espère bien.
Oui. Et bah, du coup, merci beaucoup pour ton passage sur Radio Campus.
Merci à toi.
Et bon courage et à bientôt.
À bientôt.
Et on est de retour, du coup, sous demande d'Alexandre, je vous passe un extrait sonore de Fauve pour nous rapprocher un peu
des ours
de l'atmosphère de cette œuvre. Je vous passe extrait Fauve, acte 1, scène 1.
Thank you. J'ai froid.
Midi 13h. Midi 13h. Écoute ta fac.
Some real, real fuss. Having things on my mind.
Love all the time.
Feel like it's happening all the time.
I'm in love with my mind.
I feel like I'm inside my mind.
I'm in love all the time. I'm in love with my mind.
Guess it's something usual. Trying to make it casual. A decent man working from 9 to 5, doing whatever he can to keep the family alive. There are stages where forced to survive. He skips Valentine's Day, brought roses on the birthday, a bottle of wine meant foreplay, and she said yes. In her mind she knew he was just a guess.
No money, no love, no heart, no pain. No tricks, no game.
If you give the money for the loving, baby, it's not the same. On my mind. If you give them money for the loving, maybe it's not the same.
No money, no love, no heart, no pain.
Things on my mind.
No tricks, no game.
If you give them money for the loving, maybe it's not the same.
C'est le jeu.
C'est le jeu. Coucou. C'est ça le jingle du jeu.
Poup poup.
Poup poup. Coucou, c'est le jeu. On a Alexia, Hélène et Anna dans le studio. Et Viviane aussi est toujours là.
Tout à fait. Et moi, je joue pas.
Ouais.
J'anime.
Oui.
Dun, dun, dun. Alors, aujourd'hui, on est le 16 avril. C'est la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. C'est également la journée mondiale de la voix.
Ouh.
Bonjour.
Hélène, tu fais ta voix.
Bonjour.
Bienvenue sur le répondeur rose de Radio Campus. Aujourd'hui, nous allons deviner qui est mort et qui est né le 16 avril. Alors, on cherche un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. Il est né le 16 avril 1889, probablement à Londres. Il est mort le 25 décembre 1977 à Corsier-sur-Vevey, en Suisse.
Oh, j'étais pas né, moi, donc déjà, ça commence bien.
Chaplin. Chaplin, merci beaucoup.
Ah. One point.
Charlie Chaplin.
tu sors tout ce qui te passe par la tête, Anna. Vas-y, vas-y.
En fait, on l'a eu un jour pour les naissances. Eh ben voilà. Et, là, tu t'en souviens.
Et je me souviens, bah, en fait, moi, je me souviens, parce que j'ai vu un documentaire sur lui il y a quelques années, je me souviens qu'il est mort en Suisse, parce qu'il vivait en Suisse. Et donc, voilà. Suisse, ça m'a dit.
Alors, on lui doit, bien sûr, hein, des films tels que La ruée vers l'or, Les lumières de la ville, Les temps modernes, Le dictateur, Mirage, Le Kid, enfin bref, que des chefs-d'œuvre. Alors, on cherche maintenant un homme. Il est né le 16 avril 1996 à Monesti, en Roumanie. Il est mort le 24 décembre 1963 dans le 7e arrondissement de Paris. C'est un écrivain, poète et essayiste de langue roumaine et française. Alors, il va rejoindre, en fait, pendant la Grande Guerre, Zurich. Et en 1916, il va faire partie des fondateurs du mouvement Dada. Voilà. Et il est très vite le chef de file du mouvement Dada.
C'est quoi le mouvement Dada?
Dada sur mon binet.
Le mouvement Dada. Pardon. Le dadaïsme, c'est un mouvement littéraire, artistique des années 15, 20, 25. Voilà.
Et là, c'est un écrivain qu'on cherche.
C'est un écrivain, poète également.
Est-ce qu'on a des œuvres?
Alors, des œuvres, c'est pas le plus simple de la journée.
Oui, non, j'imagine.
Je vous l'avoue. Hein. Alors, des œuvres de poésie. Alors, je n'ai pas tout ça sous les yeux, je n'ai pas préparé bien ma copie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les premiers textes d'Ada, la première aventure céleste de Monsieur Antipyrine, des poèmes, 25 poèmes, 7 manifestes d'Ada. Voilà, donc Tristan de Sara est un des fers de lance.
Tristan de Sara.
Dada.
Il s'appelle Dada?
Ouais. Non, il s'appelle Tristan de Sara. Mais oui, je connais. Tristan.
Bah tiens.
Bah voilà.
Mais pas assez bien pour le deviner.
Bah, je pense pas Tristan que j'aurais Sarah, eu non plus. Ouais. Alors, on cherche un auteur, compositeur, interprète français, né le 16 avril 1922 à Pézenas, dans l'Hérault, en France. Il est mort le 29 juin 1972, dans la même ville. Il est surtout connu pour ses chansons parsemées de calembours, de contrepétries, d'allitérations.
Nino Ferrer ?
Non, c'est pas Nino Ferrer, au point parfois de constituer des trompes-oreilles, un peu comme on a des trompes-l'œil. Lui, il faisait un peu des trompes-oreilles. Alors, quel titre on va... quelles œuvres, en fait? Aragon et Castille, Avanie et Framboise, Marcel. Ah, c'est pas de la chanson d'aujourd'hui.
J'ai son visage, mais j'ai pas le nom.
Ah ouais?
Aucune idée.
La fille du pêcheur. Voilà, toujours un petit peu d'absurde, mais Takati t'a quitté. Voilà.
Takati t'a quitté?
Oui.
Mais oui,
la maman des poissons. Enfin bref, voilà, à la fois un...
Hélène nous fait un bed.
un grand auteur et un chanteur un peu marrant, on va dire. Bobby Lapointe.
Oui. Bobby Lapointe, ouais. Ok. T'as quitté, t'as quitté.
Pas facile.
Non, c'est les glaces à vanille et citron.
Voilà. Ça, c'est... Alors, on cherche un compositeur, arrangeur, chef d'orchestre américain de musique de film, né le 16 avril 1924 à Cleveland et il est mort le 14 juin 1994 à Los Angeles. L'une de ses compositions les plus connues du grand public est The Pink Panther Theme, le thème du film La Panthère Rose de Blake Edwards, puis du dessin animé du même nom, pour lequel il composera la musique de pas moins de 26 longs métrages. Alors, aussi célèbre que le précédent, il y a un autre thème principal d'un film qui s'appelle Atari, d'Howard Hawks, c'est Baby Elephant Walk en 1962. Il a composé, arrangé des musiques de films telles que Diamant sur canapé en 1961, dont la célèbre chanson est interprétée par Audrey Hepburn. La musique de la série policière Peter Gunn, toujours de Blake Edwards. Il a également réalisé des musiques de films pour les réalisateurs tels que Orson Welles, Vittorio De Sica, Sidney Poitier, Paul Newman.
Je l'ai pas.
Et les musiques de séries telles que Columbo, Les enquêtes de Remington Steele, L'homme invisible et Les oiseaux se cachent pour mourir.
Columbo, c'est trop bien.
Que de la jeunesse.
Que de la jeunesse. Mais
Obi-Wan Kenobi.
Non.
C'est un compositeur de films, on va dire, ultra, ultra populaire, ultra connu.
Ben oui.
De ces années-là.
La Panthère Rose, j'arrive pas à retrouver le nom.
Moi, je vois l'acteur, mais je vois la musique.
Il a un nom italien, consonance italienne.
Marcello.
Spaghetti.
Merci les filles.
Vespa.
Henri Mancini.
Ah, on connaît plus.
Alors, Fatine, là, c'est une interrogation écrite pour voir si tu te rappelles un petit peu de tes travaux de début d'année à Radio Campus.
Oh, oh là,
qu'est-ce que tu as fait en début d'année à Radio Campus? Alors, on cherche un danseur et chorégraphe américain né le 16 avril 1919 à Centralia dans l'État de Washington aux États-Unis. Il est mort à New York en 2009. Donc danseur, chorégraphe, considéré comme le chorégraphe qui a réalisé la transition conceptuelle entre danse moderne et danse contemporaine, notamment en découplant la danse de la musique et en intégrant une part de hasard dans le déroulement de ses chorégraphies. Souviens-toi, nous avions reçu Gandini Juggling et tu m'avais préparé une interview.
J'ai préparé les interviews.
Voilà.
Mais je ne l'ai pas vue.
On découvrait en fait toutes les deux l'univers de Merce Cunningham.
Yes.
Voilà. Ouais. Alors, celui-là, je vais le passer parce que c'est pire que tout.
C'est pire. Aussi.
Alors, celui-là, c'est pas
le
mieux.
Le garde pour une prochaine fois. Alors.
Allez, on y va. Culture populaire, culture télévisuelle.
Ah.
On est un journaliste, animateur, réalisateur, producteur de télévision français, né le 16 avril 1945 à Buzançais, dans l'Indre. Il a fait son début de carrière à l'ORTF comme journaliste pigiste. Il devient animateur et commentateur sportif ainsi que présentateur de journal, notamment aux côtés d'Yves Mourouzi sur TF1 entre 1975 et 1977. Mmh. Alors en 1984, il rejoint la chaîne Canal+, nouvellement créée.
Michel Denisot.
C'est Michel Denisot, bravo.
Poupou.
Culture populaire, moi je suis là, toujours dans la place.
Non, on cherche.
Ça aurait pu être Michel Drucker, hein. Denisot.
Mais pas sur.
Non, non,
sur
mais je taquine.
On cherche une actrice et écrivaine française, adoptée par Yves Montand, fille biologique de réalisateur Yves Allégré et de l'actrice dont on va taire le nom parce que sinon ça sera trop facile.
Simone
Signoret. Ouais.
Voilà.
C'est.
Donc c'est donc la fille de Simone Signoret.
C'est qui la fille?
Et d'Yves Montand.
Putain, c'est qui déjà? Sa fille.
C'est aussi l'épouse en 1969 de Jean-Pierre Castaldi.
Oui, c'est ça, c'est la mère de Benjamin Castaldi.
Avec Jean-Pierre, ils auront un fils Benjamin, né en 1970, qui fait maintenant de la pub pour Maigrir.
Oui, c'est vrai. Ah, c'est insupportable. C'est vrai. Sans oublier le loft, hein, quand même.
Ah oui, il y a ça aussi. Alors, sa filmographie, on peut peut-être en parler, parce qu'il y a quand même des très très bons films, comme Compartiment tueur de Costa Gavras. Il y a également Tout peut arriver de Philippe Labro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant. Enfin bref, on est dans les années 70, encore une fois, et dans les années...
Plus récente,
Overdose d'Olivier Marchal, Fatal de Michael Youn.
Fatal Bazooka.
C'est l'oiseau. Ah, j'arrive pas à retrouver son nom, ça m'énerve.
Ah, je vous ai dit tout à l'heure.
Marchal, c'est son nom de famille.
Non, c'est la fille de l'autre. Le réalisateur du
film. C'est la fille de Simone Signoret.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la fille biologique de Yves Allégré et de Simone Signoret.
Oui.
Donc elle doit s'appeler Allégré.
Elle s'appelle Allégré.
Ah bon?
Ah bah oui, son père l'a dû la reconnaître. Enfin j'espère pour elle.
Je crois que son père l'a pas reconnue, mais elle a été adoptée par Yves Montand, ou son père l'a dû l'abandonner en fait, j'en sais rien.
Cool, ambiance.
Sympa. Alors c'est Catherine Allégré.
Catherine
Allégré. Ah, bah oui.
Alors toujours dans les mêmes périodes, hein, les périodes où les gens sont nés en 1950, hein, on a cet acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste français, né le 16 avril 1952 à Courbevoie. Il est révélé comme acteur comique durant les années 70 au sein de la troupe du Splendide, encore un. Hein, voilà.
Alors,
déjà
là, c'est
hier,
lequel,
c'était le Splendide aussi avec Josiane Balasco. Et aujourd'hui, en fait, on...
Clavier
blanc.
C'est blanc, en effet.
C'est ça, hein. Ça en était forcément un.
Voilà.
C'est blanc.
Alors, il est bien sûr dans Marche à l'ombre en 1984, Grosse fatigue en 1995, Mauvaise passe en 99.
Grosse fatigue, Mauvaise passe.
Voilà.
Ambiance, ça suit. Films.
Michel Blanc, donc.
Un dernier. Ah,
ça, c'est pas facile. Un dernier, une dernière. Un dernier, ah, il est 13h pile. Ah, oui. Ah, on va s'autodétruire.
Non, il est 12h59.
Du calme, Vivienne. Alors, on cherche une actrice américaine naturalisée britannique, née le 16 avril 1996 à Miami. Elle est révélée à l'âge de 19 ans pour son rôle dans le film d'horreur The Witch en 2015 de Robert Eggers. Sa notoriété s'accroît avec d'autres longs métrages de ce genre comme Split en 2016 et Glass.